Et on aura le maire demain, Audrey.
Yes.
Le maire Marchand à compter de 16 heures. Bye-bye.
Une station créée pour les gens de Québec. Pas de script, pas de personnages, pas de rire en canne, de la spontanéité à l'état pur.
Ben,
je vais y aller.
Ici, la radio que vous voulez entendre avait l'instinct de parler de ce qui vous intéresse.
That's amazing.
Et jouer la musique que vous aimez.
There's nothing fake.
Chaque jour, on vous livre notre quotidien, votre actualité, au rythme de ce qui se passe dans notre ville et partout ailleurs dans le monde.
Bring the country together.
Mettant en vedette plein de dudes puis de dudettes bien sympathiques qui connaissent leur affaire.
You didn't know it until now.
Aucun film.
Dans l'auto, à la maison ou au bureau, tout le temps, c'est Boulevard 102.1.
Salut, bonsoir Québec. Bienvenue sur les zones de Boulevard 102.1. Mon nom c'est Yannick Marceau. Très content de t'accompagner pour les 60 prochaines minutes. C'est des avertissements de neige, ce qu'on nous mentionne du côté d'Environnement Canada pour ce soir. L'avertissement est encore en vigueur. On a reçu quoi? Un genre de 2 cm aujourd'hui, un autre 2 cm pour ce qui est de ce soir. Et pourquoi l'avertissement? C'est que en montagne, donc au nord de Québec, on pourrait recevoir ce soir jusqu'à 15 cm. Avec des petites rafales à 50 km/h autour de minuit. Donc, c'est assez précis, là, des rafales à 50 km/h puis un 15 cm si vous êtes en montagne. Température stable à près de plus 1 degré, c'est ce qu'on nous mentionne. Pour ce qui est de demain mardi, ce sera généralement nuageux, 60% de probabilité d'averse avec un maximum de 6 degrés. Donc, demain, c'est de la pluie. Bien, hâte de voir qu'est-ce que ça va faire sur la neige. Il va peut-être y avoir de la slotch à certains endroits. Pour ce qui est de mercredi, ce sera un ciel dégagé, maximum de plus 2 degrés. Jeudi, de la neige, maximum de moins 2. Et vendredi, bien, ce sera de la neige avec un maximum de moins 3. Comme à chaque lundi, dans Morceau Soir, on a le plaisir d'accueillir Maître Marc Bellemare. Donc, restez là, les amis. On parlait d'un dossier d'agression sexuelle assez intense qui a été réglé aujourd'hui au Palais de justice de Québec. Et c'est une histoire particulière puisque ça l'implique deux policiers, un qui a commis le crime et l'autre qui l'a malheureusement subi. Donc, restez à l'écoute. On parlait aussi des nombreux retards en justice, des procès qui sont annulés. Ça, c'est triste pour les victimes qui n'auront jamais justice rendue. On parlait de déneigement, on parlait de TGV. Donc, plein de dossiers à jaser avec vous dans les prochaines secondes. Marceau Soir, ça commence maintenant!
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Quel plaisir, comme à chaque lundi, de parler avec Maître Marc Bellemare de Bellemare Avocat. Comment allez-vous, Maître Bellemare?
Très bien, et vous?
C'est toujours un plaisir. Vous avez passé un super beau week-end.
Ah, ben là, 2 jours, c'est court.
La neige pour vous, est-ce que c'est un problème? Parce qu'à Québec, on s'est débarrassé de la neige, pas pire. À Montréal, on a de la misère à se débarrasser de la neige, puis pas à peu près. Je pense qu'on nous a annoncé. Dans les dernières heures, on nous annonçait que mois de mars, là, on devrait avoir terminé de ramasser toute la neige qui est tombée dans les 2 dernières tempêtes. Je vais vous dire que les gens de Montréal sont pas très heureux de ce qui se passe actuellement là, avec leur trottoir, leur route, leur piste cyclable. Ça va pas bien.
Ouais. C'est très dangereux, puis évidemment, la visibilité est réduite du fait qu'on ne sait jamais ce qui se passe de l'autre bord du banc de neige. À Montréal, c'est toujours le même problème. L'espace est très restreint pour passer pour les piétons, puis s'il y a des périodes de gel ou de pluie qui viennent s'ajouter à ça, des fois, ça peut causer beaucoup d'accidents, et on sait que quand on est victime d'une chute, on peut toujours envoyer une mise en demeure à la municipalité. On a 3 ans pour poursuivre la ville si on estime que ça a été le résultat d'un défaut d'entretien. Mais quand les conditions climatiques sont très, très mauvaises, souvent les juges vont considérer que c'est plutôt la température qui est responsable. Puis ça, bien évidemment, monsieur ou madame température, bien c'est pas une partie poursuivable. Alors, soyez prudents, mais si vous tombez, on l'a jamais dit assez, si vous tombez, prenez une photo de l'endroit où vous êtes tombé pour être capable d'éventuellement de prouver qu'il y a une négligence, si c'est pas salé, si c'est pas sablé. Puis surtout aussi, prenez le nom des gens qui vont venir vous secourir quand vous tombez.
Ouais.
Monsieur, madame qui passe par là puis qui vous dit « bon, je vais vous aider, prenez donc ces coordonnées ». Je comprends que quand t'as mal, tu t'endures plus. C'est difficile de penser à tout ça, mais si tu prends pas ces coordonnées, Quand tu vas passer devant le tribunal éventuellement, si tu poursuis la ville, ben, il va te manquer un témoin important. Fait que c'est des petites choses, hein? Une photo, quelques noms, gardez ça dans votre téléphone, puis ça va vous aider à faire votre preuve éventuellement.
Maître Bellemare, on a plein de sujets à jaser ce soir avec les auditeurs, des sujets qui nous ont marqués dans les dernières heures. On se ramène à 2021 lors d'un party où il y avait uniquement des policiers qui étaient invités. Il y avait des hommes et des femmes du service de police de la Ville de Québec qui étaient présents à ce party-là. Et il y a une policière qui était fortement intoxiquée, qui a dû être accompagnée dans une chambre. Le party se déroulait chez un policier. Son nom, c'est Christian Lachance. Et quand ils ont descendu la policière à la chambre d'amis où la jeune femme était supposée dormir jusqu'au lendemain, eh bien, on avait constaté à quel point elle était dans un état qui est un peu grave, là. Puis on a dit au gars ou aux filles, il n'y a personne qui va se présenter dans cette chambre-là, elle est trop maganée, on ne veut pas qu'il se passe de niaiserie. Et malgré ça, Christian Lachance, qui était dans sa propre maison, a attendu le départ de tout le monde pour aller rejoindre la policière et il l'a agressée sexuellement. Il l'a photographié pendant qu'il l'agressait. Et aujourd'hui, cet individu-là a eu sa sentence. La couronne demandait 38 mois de prison, ce qui n'est pas suffisant encore à mes yeux. Et le juge a dit que Christian Lachance allait être condamné à une peine de 28 mois de détention ferme pour agression sexuelle commise sur sa collègue de travail. C'est extrêmement dommageable, bien entendu, pour la victime. Puis en plus, ben, la victime a été identifiée par le SPVQ, là. Donc, ses amis, ses collègues savent exactement ce que la victime a vécu. Ça a été assez médiatisé, là, au niveau du corps de police, malheureusement. C'est atroce ce qu'elle a vécu, mais 28 mois de prison pour un agresseur sexuel, un prédateur sexuel qui a poussé l'audace même jusqu'à se prendre en photo alors qu'il sait que c'est totalement illégal ce qu'il est en train de faire. Encore une fois, des petites sentences bonbons, ça nous fatigue un peu.
Ben, c'est 28 mois, évidemment, 26 mois pour l'agression sexuelle et 2 mois pour le voyeurisme. Compte tenu que Lachance a pris des photos de sa victime durant l'agression. Ce n'est pas des
Exact.
jokes. Tu ne peux pas me dire que c'est un accident quand tu prends des photos pendant l'agression et il va être inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans. Bon, évidemment, j'aurais souhaité que la couronne gagne sa cause avec ses 38 mois, s'il était déjà, à mon avis, raisonnable, là, mais le juge a quand même tranché à travers ça. Il y a des possibilités d'appel des deux côtés. Ça peut être la victime. Ce n'est pas la victime, mais l'agresseur qui poursuit parce qu'il considère que sa peine est trop sévère. Ça peut être le DPCP qui va avoir plus que ça. C'est certain que parmi les conditions, les circonstances aggravantes que le juge a retenues, c'est que il considère que cet homme-là était en pleine possession de ses moyens, puis qu'il a délibérément abusé de la victime, qui était dans un état, selon ce que le juge rapporte, semi-comateux. Alors là, on ne parle pas d'un consentement possible. Lui avait affirmé que la relation était consentante et le juge a considéré qu'il y avait, je cite, aucune ambiguïté possible, aucune place à la croyance sincère mais erronée du consentement d'une personne inconsciente qui dort pour cause de fatigue ou d'intoxication. Tu sais, à un moment donné, là.
Mais le gars la prenait en photo pendant, puis excusez-moi, là, je suis désolé, en fait, je vais utiliser les mots de juge, là. Pendant que la jeune femme était comateuse, donc elle dormait, lui tentait d'insérer son pénis dans la bouche de la jeune femme et se prenait en photo.
Ouais, c'est ça.
Ça peut pas être plus fou que ça. C'est un policier qui a fait ça, Maître Bellemare. Donc, je
Ben
sais
c'est
pas, moi,
ça.
si j'avais été le juge, j'aurais pris une décision peut-être un peu plus sévère parce que le gars fait partie du système. Parce que tu sais, on dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais encore moins un policier. C'était pas un simple policier, c'était un sergent de police. Plusieurs années dans le service de police. Je veux dire, c'était pas un nouveau policier qui pourrait dire, ah ben écoutez, moi, je le savais pas, là. Tu sais, 28 mois, Maître Bellemare, c'est Je ne sais pas où est-ce qu'on s'en va, mais j'ai l'impression que justice, encore une fois, n'a pas été rendue dans le dossier. Puis le juge parle de la victime en disant qu'au travail, bon, c'est une policière, là, elle doit affronter constamment les malaises des collègues de travail, les ragots, les mémérages, les étiquettes qui sont stigmatisantes de certains de ses collègues. Elle a subi une forme d'ostracisation, donc elle a été mise de côté. Elle subit constamment des regards soupçonneux, des insinuations comme quoi elle était peut-être consentante ou peut-être pas tout à fait, des raconteurs, des ragots. Je veux dire, c'est épouvantable ce que la victime va vivre. Là. Elle, d'après moi, elle ne voudra plus être policière jusqu'à la fin de ses jours parce que ce salaud-là l'a agressé sexuellement.
Ben, c'est ça. Ben, lui, il demandait 2 ans moins un jour dans la communauté.
Dans la collectivité, ben oui.
Dans
ben
la
oui.
collectivité, ce qu'on appelle les peines Netflix, là, manger des chips à ma maison, en buvant ta petite bière, en écoutant des films. Les peines Netflix, les peines dans la communauté avec lesquelles je suis, dans tous les cas, en total désaccord. Je pense que ça ne devrait même pas exister dans notre système judiciaire, mais cadeau de Justin Trudeau en 2022, il a permis des peines dans la communauté, ce qui fait que les accusés, les condamnés demandent souvent des peines dans la communauté. Puis tu sais qu'en 2023, il y avait un agresseur sexuel sur 5 au Québec qui a bénéficié de peines dans la communauté. C'est devenu une grande mode. Et en 2024, on n'a pas encore les chiffres. J'ai hâte de voir, mais je pense que ça doit atteindre les 40-50% parce que les accusés demandent, les condamnés demandent presque systématiquement des peines dans la communauté. Mais le juge a considéré que dans ce cas-ci, ce n'était pas acceptable et que c'était de nature à déconsidérer l'administration de la justice. Je suis d'accord avec le juge là-dessus. Le policier connaît les lois, dit-il, au courant du consentement. C'est dans ce contexte qui est le plus grave qu'un policier commette ses infractions. C'est certain que, tu sais, quand un policier, par exemple, va excéder la vitesse en prenant en filature une personne qui a commis un acte criminel ou en faisant preuve d'une force importante dans une arrestation, les juges vont être portés à considérer que le policier est là pour assurer le respect de la loi et l'ordre. Donc, il va être tu sais, la jurisprudence est assez tolérante face aux policiers quand c'est le temps d'utiliser la force pour obtenir que la personne respecte la loi ou empêcher que d'autres crimes soient connus. Mais dans le cas d'une agression sexuelle, évidemment, ça ne s'applique pas. On n'a aucune raison de considérer qu'un policier doit bénéficier de son statut pour obtenir une peine moins sévère. Même au contraire, et c'est ce que le juge dit ici, quand tu es policier, tu n'en as pas d'excuse. Puis pour un crime de nature sexuelle, compte tenu de ton statut, puis ça s'applique pas juste aux policiers, là. Ça s'applique aux médecins, ça s'applique aux avocats, ça s'applique à tous ceux et celles qui sont là pour assurer le respect de la loi puis le plus haut respect des droits des victimes. Alors, je pense pas que monsieur le policier ait la chance soit policier encore bien, bien longtemps. Dès que les procédures vont être terminées, probablement qu'il va perdre son emploi parce que ce type de crime-là, évidemment, est complètement interdit. Et en vertu de la loi sur la police, ce type de crime-là entraîne automatiquement la déchéance au niveau de son emploi. Mais comme je te disais tantôt, il y a possibilité d'appel dans ce cas-ci. Et le rôle de la couronne, c'est d'évaluer, le DPCP, c'est d'évaluer si vraiment 28 mois est suffisant. Parce que là, 26 mois pour l'agression sexuelle, 2 mois pour voyeurisme, écoute, c'est pas beaucoup. Et c'est sûr que si la couronne demandait 38 mois, la couronne peut aller en appel puis exiger que la cour d'appel se prononce sur cette question-là. On oublie souvent que ce sont des jugements qui sont rendus par un tribunal de première instance et que la cour d'appel du Québec constitue le tribunal de deuxième instance, la cour suprême de troisième instance. Il y a des mécanismes d'appel où la couronne peut s'adresser pour obtenir une peine plus sévère et la défense moins sévère. Mais dans ce cas-ci, on verra bien. On a 30 jours pour voir comment la couronne va se comporter par rapport à l'opportunité d'aller en cour d'appel avec ça.
Ah, monsieur l'avocat, si jamais j'avais réussi à être juge, me faire appeler honorable, j'ai toujours voulu me faire appeler honorable. J'ai demandé à ma blonde, mais elle veut pas m'appeler de même. Mais j'aurais été tellement plus sévère envers les représentants du système. Parce que là, je comprends que le juge a dit, bien là, il doit connaître la loi, en plus, c'est un policier, mais on devrait être plus sévère envers ces gens-là, que ce soit un juge, un avocat, un policier, un politicien. Ces gens-là représentent le système. À partir du moment où il y a un abus de confiance, puis qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est criminel, on devrait être plus sévère envers ces gens-là. Mais bon, j'imagine que le juge, il va dormir quand même bien là, avec la décision qu'il a rendue aujourd'hui. 28 mois de prison pour un agresseur sexuel qui a commis des choses absolument épouvantables et une victime qui, elle, va être marquée jusqu'à la fin de ses jours. Est-ce que, Geneviève Guilbeault, vous est revenu avec le fameux registre des délinquants sexuels? Attendez-vous non. toujours son appel? Attendez-vous, à chaque jour, est-ce que vous regardez le courriel oui. de Geneviève Guilbeault à savoir oui. s'il y a un nouveau message?
Ben oui, il faut rappeler que Mme Guilbeault, en 2018, avant l'élection de la CAQ pour la première fois, avait, en septembre 2018, participé à une marche publique à Québec. J'étais là, je l'avais rencontré à ce moment-là. J'avais pris la parole devant le Parlement, Pierre-Hugues Boisvenu aussi, et Mme Guilbeault pour demander un registre des délinquants sexuels au Québec, un registre public. C'est-à-dire que tu irais sur Internet, tu pourrais regarder pédo ou agresseur sexuel, tu cliques, tu vois la photo, tu vois le nom, la condamnation, la date, tout ce qui est finalement contenu dans les dossiers criminels. Mme Guilbeault était à l'époque députée de Louis Hébert. Elle n'était pas encore ministre parce que c'était le gouvernement de Philippe Couillard qui est encore en poste, mais l'élection a eu lieu en novembre, quelques semaines après cette marche-là, et Mme Guilbeault a été nommée à la sécurité publique. Fait que moi, je me suis dit, bravo, elle vient de promettre il y a 2 semaines un registre sur les délinquants sexuels, est élue vice-première ministre, ministre de la sécurité publique, c'est exactement le fauteuil qui permet de faire respecter cette promesse-là, puis d'instaurer au Québec un registre des délinquants sexuels. Alors, ça ne s'est pas fait en 2018. Alors, en 2022, le seul parti qui avait rappelé à Mme Guilbeault le fait qu'elle n'avait pas respecté sa promesse électorale, c'était le parti d'Éric Duhaime. Alors, moi, je me suis assis à côté d'Éric Duhaime pour le Parti conservateur du Québec en campagne électorale pour rappeler à Mme Guilbeault qu'elle avait promis ça en 2018. Et on a même fait jouer devant les journalistes l'enregistrement de son discours qu'elle avait fait devant le Parlement pour
Ouais.
dire, nous allons à la CAQ instaurer un registre gratuit, accessible, public des délinquants sexuels. Et bien évidemment, malgré la réélection de son gouvernement en 2022, ça n'a toujours pas été fait. Alors là, on sait que la chance, le policier La Chance est condamné pour agression sexuelle. On voit sa face dans les journaux. On connaît son nom au complet. On sait que c'est un policier. Et on a tout ce qu'il faut, mais je vous mets au défi, dans 6 mois, 7 mois, qui va se souvenir du policier qui a agressé sexuellement une collègue en 2021 dans un party de bureau bien arrosé? Personne ne va se souvenir de son nom. On sait aujourd'hui que c'est Christian Lachance, mais le temps fait en sorte qu'on oublie
Ouais.
l'identité de ces gens-là. Et la première chose qu'un agresseur sexuel souhaite, c'est d'être oublié. Alors, un pédophile, c'est la même chose. Être oublié, ils vont m'oublier, ils ne se souviendront pas. Fait que dans 5-6 ans, je rencontre ce gars-là à la pharmacie, moi, ou sur le trottoir, ou je sais pas, dans une fête quelconque. Il n'y a personne qui va me dire, ah, c'est lui, je me souviens de lui, à moins qu'on ait un registre pour rappeler à la mémoire collective l'identité et la gravité des crimes commis par ces gens-là. Ben, on les oublie, puis c'est ça le problème. C'est pour ça que c'est important d'avoir un registre, mais ce n'est pas Mme Guilbeault, ce n'est pas le gouvernement Legault qui va l'instaurer. Peut-être éventuellement, on en aura un, mais pour l'instant, on n'en a pas. Alors, ces gens-là disparaissent dans la nature, dans notre mémoire courte, bien sûr, collective.
Maître Bellemare, chez nous, il y a de ça quelques semaines, on avait un party de filles dont j'ai eu le plaisir de faire partie. J'étais leur majordome, donc je faisais tout en mon pouvoir pour que les femmes puissent passer une belle soirée à placoter et à parler en mal des hommes. Et à un moment donné, il y a eu une histoire qui a été racontée comme quoi le gars qu'elle avait rencontré, elle ne savait pas que ce gars-là avait un dossier criminel, puis ils sont partis vers les États-Unis, puis c'est le douanier américain qui a appris à sa nouvelle conjointe qu'il y avait un dossier criminel. Puis lui, il dit, ben, je t'en ai pas parlé parce que j'étais gêné de ça. Puis elle lui a dit, mais c'est quoi tes dossiers? Puis il a pas voulu lui dire c'était quoi ses dossiers. Et quand j'ai entendu cette conversation-là, j'ai dit, les filles, c'est assez simple quand vous voulez faire votre due diligence, là, à savoir avec qui je fais affaire dans la vie, que ce soit un partenaire d'affaires, que ce soit un partenaire de vie. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez aller au palais de justice. C'est comme ça, au palais de justice de Montréal, Québec, Trois-Rivières, Drummondville. Y a-t-il un palais de justice à Drummondville? Je pense que oui, hein?
Bien sûr,
Il y a un palais de
absolument.
justice à Drummondville.
Oui.
Vous pouvez aller prendre l'ordinateur, rentrer le nom complet de l'individu que vous voulez rechercher, là, et vous rentrez sa date de naissance et vous allez voir si cette personne-là a un dossier criminel et vous allez voir les infractions commises par cet individu-là. Sur les quatre filles, sur les cinq filles qui étaient chez nous, il n'y a pas une fille qui est au courant de ça, Maître Bellemare. Alors qu'on
Ouais.
devrait enseigner ça à l'école secondaire maintenant.
Tout à fait, parce que c'est une façon d'accéder, puis c'est la raison pour laquelle Mme Guilbeault avait promis un registre, parce que ça ne coûterait rien à l'État québécois. C'est simplement de mettre en ligne, sur un site connu, accessible, agresseursexuels.com, quelque chose du genre. C'est très facile d'obtenir toutes ces informations-là parce qu'elles sont déjà publiques. Mais tu as raison quand tu dis que ça prend la date de naissance, c'est un des problèmes, parce que je me souviens, Michel Surprenant, qui est le père de Julie Surprenant, qui est disparu en 99, dont on n'a jamais retrouvé le corps, mais qui a vraisemblablement été agressé est tué. Michel avait des doutes à l'époque sur le gars qui est resté en haut chez eux, alors qu'il restait avec sa fille qui a disparu éventuellement. Il s'appelait Richard Bouillon, l'individu. Et Michel s'était rendu au palais de justice, il m'a raconté l'histoire souvent, à Laval, pour pouvoir avoir les données relatives à ce Richard Bouillon-là. Et il n'avait jamais été capable d'accéder au plumitif criminel parce qu'il n'y avait pas la date de naissance de Bouillon. Alors, ce que tu me racontes, la fille qui sort avec un gars dont elle soupçonne le passé criminel, surtout de nature sexuelle, elle peut avoir la date de naissance du gars parce que c'est son ami de cœur. Alors, c'est la première chose que tu sais, c'est la date de naissance. Et à ce moment-là, tu peux avoir accès au plumitif criminel et savoir si l'individu a été condamné déjà pour des crimes, pas nécessairement de nature sexuelle. Ça peut être des crimes d'alcool au volant, ça peut être des crimes de méfaits, ça peut être des crimes de violence, ça peut être des crimes de voies de fait, de bataille, de n'importe quoi. Alors, tout le passé criminel se retrouve dans le plumitif criminel, mais encore là, comme je te dis, c'est au niveau de la date de naissance, souvent que ça va choper. Parce que si toi, tu as une petite fille de 14 ans qui va garder chez un voisin à deux coins de rue de chez vous, tu veux savoir si ce gars-là a des antécédents criminels, bien, tu vas avoir de la misère. S'il s'appelle Michel Simard, exemple, bien, il n'a peut-être, je ne sais pas, 400 des Michel Simard. Alors, plus le nom est commun, plus le nom est courant, plus c'est difficile d'avoir l'information. Et si tu n'as pas la date de naissance, bien, tu ne sauras jamais qu'est-ce que ce gars-là a fait dans la vie avant que ta fille ait gardé chez
Ouais.
eux, là.
Mais juste de
De là, la
savoir.
nécessité d'un registre qui pourrait
Exact.
faciliter l'accès.
Exact. Mais juste, en attendant que les politiciens dégèlent, puis que la ministre Guilbeault passe à l'acte sur les promesses qu'elle a faites à ce moment-là, ben on peut se rendre dans les palais de justice. Puis si on est capable de mettre la main sur la date de naissance de l'individu, puis en plus on a son prénom et son nom de famille, on peut avoir un peu le pedigree et de peut-être être éclairé à savoir avec qui on fait affaire dans la vie, avec qui on partage notre vie. On parlait du policier Lachance là, qui se ramasse avec 38 mois de 28 mois, pardon, de prison pour avoir agressé sexuellement une femme. On a parlé il y a de ça quelques mois, Maître Bellemare, de Jacques Delisle qui est décédé. Lui a tué ou il aurait tué sa femme, Monicole Rainville. Quel genre de vie ont ces gens-là en prison quand ils font partie du système? Le juge Delisle a envoyé des gens en prison. Probablement que Lachance, lui, a fait des arrestations et a envoyé des méchants en prison. Quel genre de vie ont ces gens-là à l'intérieur des murs? Parce qu'ils ne peuvent pas être mis avec la population régulière. Est-ce que, parce que dans le cas de Delisle, ce qu'on me dit, c'est qu'il a passé une bonne partie de sa vie à l'infirmerie parce qu'il était trop vieux. Il était autour de 85, 80, entre 85 et 89 ans de mémoire là, quand il était en prison. On ne peut pas le mettre avec la population régulière. Puis quand on le mettait avec la population régulière, c'était pour qu'il puisse donner des cours de droit à des individus qui avaient des questions à lui donner. Dans le dossier de Lachance, là, lui, il s'en va directement dans l'unité de protection là, avec les pédophiles, puis toutes les gens qui ont fait des trucs un peu weirdo, là.
Oui, parce que 28 mois, ça s'appelle un pénitencier, là. Parce que 2 ans moins un jour, c'est une prison, c'est ça les règles, une prison qui relève du gouvernement du Québec. 2 ans et plus, c'est une peine de pénitencier, ça relève du gouvernement du Canada. Donc les pénitenciers, c'est Monté-Saint-François à Laval, c'est Sainte-Anne-des-Plaines, c'est Drummondville, je crois que c'est Baie-Comeau aussi. Alors, c'est des pénitenciers de haut niveau. Il n'y a pas beaucoup d'enfants de cœur dans les pénitenciers fédéraux. Et dans certains cas, ils vont déplacer les détenus dans d'autres provinces ou dans d'autres régions. Alors, Donnacona aussi, évidemment, qui est un pénitencier fédéral. Je suis pas un spécialiste en droit carcéral, mais je sais que si la sécurité du détenu est menacé du fait de son statut ex-juge, comme le Jacques Delisle, vous l'avez mentionné tantôt, même des avocats, procureurs de la couronne qui pourraient être incarcérés, des policiers, comme on le sait, qui, avant d'être condamnés, procédaient à des arrestations, des filatures, des enquêtes. Donc, ces gens-là n'ont pas la cote en prison ou en pénitencier, tu comprends bien que. Il y a beaucoup de détenus qui ont beaucoup de colère intérieure par rapport au système. Et si un individu détenu représente le système, il risque d'avoir passé un mauvais quart d'heure. Alors, dans ces cas-là, il y a des possibilités à l'intérieur des murs que les individus bénéficient d'une certaine protection. Je sais que Jacques Delisle en bénéficiait. D'autres pourraient en bénéficier aussi. Je ne sais pas ce qui va arriver avec le policier Lachance, mais normalement, les avocats, dans les cas de condamnation de ce type-là, vont essayer d'obtenir des mesures de protection à l'intérieur des murs.
Est-ce qu'ils peuvent avoir des privilèges, un statut, avec leur statut, est-ce qu'ils peuvent avoir des privilèges? Tu sais, l'ex-juge de l'île, je veux dire, c'était quand même un personnage important, ça a été fortement médiatisé. Est-ce qu'on pourrait leur procurer des choses à ces gens-là pour qu'ils soient peut-être un peu plus aisés en prison de l'île? Il y avait un ange assez particulier.
Plus d'espace, des cellules un peu plus aménagées, à la limite peut-être des équipements pour faire de l'exercice physique, tapis roulant, vélo stationnaire, des choses comme ça, je sais que ça se fait. Maintenant, une chose qu'il faut que tu saches aussi, c'est que moi, parce que j'ai eu souvent des appels d'ex-détenus ou de détenus qui me demandaient de les représenter, s'ils sont blessés ou agressés à l'intérieur des murs, ils sont admissibles à IVAC, hein, tu sais ça. IVAC, c'est l'indemnisation des victimes d'actes criminels qui, en principe, doit profiter à des victimes. Mais si tu es victime d'agression à l'intérieur des murs parce que quelqu'un te saute dessus puis t'es blessé, traumatisme crânien, agression, et ça, tu peux demander les bénéfices de IVAC qui va accepter de t'indemniser si tu fais la preuve que tu as été victime d'un acte criminel en prison. Je sais qu'il y a des détenus qui sont indemnisés par IVAC parce qu'ils ont été agressés en prison. Alors, ils sont coupables d'un crime. Mais pendant leur incarcération, ils bénéficient d'indemnisation d'IVAC si jamais ils sont victimes d'un crime de la part d'un autre détenu ou de quiconque. C'est gros, hein?
Puis est-ce qu'ils reçoivent un chèque à
On
l'intérieur
paye
des murs?
pour ça, nous autres, là.
Ouais.
IVAC pour des ex-détenus qui ont été agressés en prison. Le monde à l'envers.
Merci de m'avoir glissé cette information-là. Je vais avoir de la misère à dormir ce soir.
On a de l'argent au Québec. On est riche, hein? On paye pour des prisonniers qui sont battus. C'est sûr que
Ouais.
tu n'as pas le droit de.
Mais tu.
En prison, tu es là pour purger une peine, tu n'es pas là pour te faire tabasser. Mais c'est quand même ironique de penser que des gens qui ont été agressés en pénitencier pour avoir commis un crime grave qui les amène à purger au moins 2 ans de pénitencier vont pouvoir bénéficier de fonds publics s'ils sont blessés par IVAC. Et puis, même à l'intérieur des murs, ils sont admissibles. Même pendant leur détention, ils sont admissibles à des prestations. S'ils sont suffisamment blessés pour pouvoir prouver qu'ils ne sont pas capables de faire leurs activités régulières, ils peuvent bénéficier d'un remplacement de revenus aux 2 semaines pendant toute la période de leur incapacité. C'est quelque chose.
Ouais.
On est riche au Québec, ça veut dire ça? On est endetté, on trouve de l'argent pour ça.
Le système doit être riche en tabarouette parce que moi, je n'en vois pas mal plus que j'en retire. Je peux vous le dire, puis ça me fâche assez. Maître Bellemare, je voulais vous parler du directeur des poursuites criminelles et pénales. J'ai trouvé un article sur le site de Radio-Canada. Là, dans ce dossier-ci, on parle de l'Abitibi-Témiscamingue, mais on va y aller de façon plus généraliste, là, à la grandeur du Québec. Est-ce que le directeur des poursuites criminelles et pénales abandonne beaucoup de causes criminelles par manque de juge? Par manque d'avocats de la couronne. Est-ce que les temps d'attente pour ce qui est des procès et tout ça, ça a diminué avec le temps ou ça ne fait qu'allonger? Puis vous êtes souvent dans le civil. Est-ce que ça s'est amélioré au civil ou les listes d'attente là, pour ce qui est des causes entendues, ça augmente de mois en mois?
Bien, si on regarde le DPCP, pour parler du DPCP, le DPCP, c'est un acronyme, là, pour expliquer aux auditeurs, c'est le directeur des poursuites criminelles et pénales. Au fond, là, c'est les procureurs de la couronne. Pour les plus vieux comme moi, là, on appelait ça dans le temps un procureur de la couronne, celui qui accuse une personne, celui qui plaide la cause, pour essayer de montrer au juge qu'il est coupable, et s'il est coupable, de proposer une peine, puis s'il n'est pas satisfait de la peine, d'aller en appel, etc. C'est la couronne, là. Si quelqu'un commet un crime, toi, tu ne peux pas poursuivre cette personne-là au criminel, l'accuser. Moi, je ne peux pas l'accuser, mais le DPCP, sa job, c'est d'accuser des gens qui commettent des crimes. Alors, moi, j'ai toujours été surpris parce que je me souviens quand j'étais procureur général, il y avait des procureurs de la couronne qui me demandaient des budgets, puis ils me demandaient des ordinateurs, puis ils me demandaient d'ouvrir des postes, puis tout ça, puis ils nous disaient tout le temps, écoutez, on est tellement occupés, on n'a tellement pas de ressources pour accuser tout le monde. Il y a des gens, des fois, qu'on n'accusera pas. Il y a des fois qu'on va faire des deals avec la défense pour obtenir des peines qui sont loin de ce qu'on pourrait obtenir si on plaidait la cause. Mais compte tenu qu'on n'a pas le temps, on est obligé de faire du plea bargaining, qu'on appelle. Mais ça, là, c'est pendant qu'ils négocient, les procureurs de la Couronne, des conventions collectives avec le ministère de la Justice. C'est ça qu'ils disent. Mais une fois que la convention est signée, tu les entends plus jamais dire qu'ils n'ont pas le temps d'accuser puis de faire les procès. Alors, moi, je pense qu'effectivement, il y a des ressources qui manquent au niveau du DPCP et qui fait en sorte qu'il y a des deals qui se font des fois avec la défense qui sont nettement en deçà de ce qu'il pourrait obtenir si la cause était plaidée. Ceci étant dit, oui, il y a des délais importants en matière criminelle et on sait que depuis l'arrêt Jordan qui a été prononcé en 2016, il y a des délais à l'intérieur desquels les accusés doivent être jugés. Alors, c'est 18 mois dans la Cour du Québec, c'est 30 mois en Cour supérieure, c'est assez court. À cause de la Charte fédérale, la Cour suprême a statué qu'on devait agir dans un délai précis. Au civil, il n'y a pas ce type de mesure-là. Fait qu'il n'y a pas de délai à l'intérieur desquels le procès doit être tenu. Il y a toujours des délais pour déposer une procédure. On appelle ça une prescription. Depuis 1994 au Québec, le délai de poursuite au civil, si tu veux poursuivre ton voisin parce qu'il a brisé ton terrain, si tu veux poursuivre la ville parce qu'ils n'ont pas entretenu le trottoir comme il faut, si tu veux poursuivre un constructeur qui a scrappé ta maison, tu as 3 ans, c'est depuis 1994. Avant 1994, ça avait des délais de prescription de 10 ans, de 3 ans, de 6 mois, d'un an, de 2 ans. Mais en 1994, ça a été uniformisé pas mal au Québec. C'est maintenant 3 ans, sauf dans les cas de diffamation où c'est un an. Alors, ça, c'est des délais de poursuite, mais à partir du moment où la poursuite est intentée, il y a des objections, il y a des plaidoyers, il y a des requêtes, il y a des conférences de gestion avec le tribunal, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Puis, évidemment, dans des poursuites civiles, celui qui est pressé, c'est le demandeur qui veut obtenir un jugement au plus sacrant, puis son cash, comme on dit, son indemnité. Mais la défense, elle, est moins pressée. Alors, tu en as un qui pousse, puis tu en as un qui tire. Alors, celui qui pousse, c'est celui qui veut que ça passe au plus vite, puis celui qui tire, c'est celui qui a intérêt à ce que ça passe le plus tard possible. Alors, c'est ce qui fait qu'il y a des délais de cours souvent.
Quand il arrive des problèmes, souvent on trouve des solutions, puis des fois les problèmes sont très gros, on n'avait pas prévu ça, ça arrive rapidement, puis on se dit, garde, on va se prendre en main, on n'avait pas vu ça comme ça, puis on n'était pas préparé, on va se prendre en main. La COVID, quand elle est arrivée, la justice devait suivre son cours, et à un moment donné, ben, il y a des juges qui se disaient, OK, ben oui, on a des procès à faire, mais maintenant on pourrait prendre des causes sur Internet, exemple, pour qu'on puisse se parler en visioconférence. Est-ce que, puis je pense que vous, en pratiquant pour ce qui est en pratiquant le droit, vous avez réussi à faire des visioconférences puis à être en procès. Est-ce qu'on est toujours là-dedans ou on est comme revenu à l'ancienne, c'est-à-dire tout le monde doit être présent dans la salle de cours? Parce qu'on aurait tellement avantage, Maître Bellemare, à y aller le plus souvent en visioconférence, que ce soit le juge, les avocats. À mes yeux, à moi, ils ne sont pas obligés d'être dans la même pièce. T'sais, si il y a une caméra sur eux, puis ils sont capables d'avoir du son de qualité, puis de bien s'exprimer, puis on suit les règles de la cour, il ne devrait pas y avoir de problème. Est-ce qu'on est revenu à l'ancienne méthode ou on s'est amélioré?
On s'est amélioré, mais on aurait pu, je pense, faire plus de Zoom ou plus de Teams, plus de virtuel. Pendant la pandémie, tu as raison, entre ben, le shutdown pandémie, là, COVID, c'est le 13 mars 2020, je crois bien. Ça va faire bientôt 5 ans d'ailleurs. Mais à partir de ce moment-là, il y a eu une interruption à peu près complète des tribunaux pendant quelques mois. Et à un moment donné, graduellement, les tribunaux ont commencé à dire, on va faire du Teams, on va faire du Zoom. Moi, je me souviens d'avoir plaidé en 2021 devant la Cour d'appel du Québec. Ça s'est fait en Teams et tout le monde était devant son ordinateur, les 3 juges de la Cour d'appel, l'avocat du procureur général, moi, j'étais dans mon bureau et ça s'est très bien passé. Mais graduellement, il y a eu un certain retour au présentiel, de plus en plus, cours supérieur, même dans des causes où il n'y a pas de témoins, où il y a juste des arguments, c'est juste les avocats, il n'y a pas de preuves testimoniales, comme on dit, c'est-à-dire des témoins qui se présentent, qui sont interrogés par les avocats. Alors, quand il n'y a pas de témoins, c'est juste des arguments, on devrait pouvoir procéder par Teams ou par Zoom, mais ce n'est pas toujours possible. Il faut que le juge le permette et c'est dans des cas exceptionnels. Et je me souviens, à l'époque, c'était beaucoup plus facile de procéder de cette manière-là. On a sauvé du temps, on a sauvé des coûts pour les clients, surtout en hiver, hein. Au Québec, une tempête de neige, ça fait en sorte que tu peux avoir X procès qui vont être remis, puis X procédures qui vont être reportées. Mais je donne l'exemple du tribunal administratif du travail, où je vais souvent, parce que quand je défends un accidenté du travail, ça se passe, quand on conteste une décision de la CNESST, c'est au tribunal administratif du travail. Ils ont fait des zooms Donc, des audiences virtuelles, je dirais, entre 2020 et 2022, 2023, ben, à un moment donné, ils ont changé les procédures puis ils sont retournés au présentiel. Alors, c'est pour ça que quand tu défends un accidenté du travail devant le tribunal administratif du travail au Québec, sauf exception et permission spéciale du tribunal, ça se passe en présentiel. Fait que la semaine passée, vendredi passé, j'ai été à Trois-Rivières. Cette semaine, je suis à Drummondville mercredi. Je suis à Thetford Mines jeudi. Et je suis à Saint-Hyacinthe vendredi pour des causes devant le tribunal administratif du travail. Moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens.
Ben, c'est parce que.
On avait procédé par Zoom, on avait développé des manières de procéder
Ouais.
qui sauvaient du temps et qui sauvaient de l'argent à nos clients.
Exact.
Mais là, on retourne en présentiel, ce qui fait que tu es limité dans ton agenda aussi à cause de l'affluence et de la nécessité de se déplacer. Quand tu es sur le chemin, sur l'autoroute pour aller plaider à Saint-Hyacinthe, tu n'es pas au bureau, tu n'es
Exact.
pas capable de faire deux causes dans la même journée, là.
Puis le temps que vous êtes dans la voiture, supposons que j'ai recours à vos services, le temps que vous êtes dans la voiture, moi, je le dois le payer, ce temps-là, parce que c'est un temps qui
Oui,
est dédié à moi, à
mais je
vous.
vais en tenir compte dans le prix que je vais faire au client. C'est certain que si je prends une cause à Montréal, ce n'est pas le même prix que si c'est en haut de la côte à Québec. Parce que normalement, un dossier d'accident de travail, en général, ça prend à peu près une demi-journée. Alors, si je suis à 9 h au tribunal administratif du travail à Québec, je ne peux pas être à Montréal l'après-midi. Alors, je suis obligé de demander de reporter la cause ou de la déplacer une autre journée. Puis, il faut que ça donne avec l'ensemble de l'agenda aussi sur d'autres dossiers, devant d'autres juridictions, devant d'autres cours. Fait que, oui, je pense qu'on pourrait faire plus au Québec. Oui, je pense qu'on devrait faire plus de virtuel devant les cours de justice, mais c'est encore les juges qui ont le dernier mot. Puis selon le tribunal à qui tu t'adresses, selon le type de cause, mais ça va se faire en présentiel ou non. Mais disons qu'on a fait beaucoup de progrès sur le virtuel pendant plusieurs années, mais là, il y a un retour, à mon avis, qui est regrettable au présentiel de plus en plus. Et bon, ben, c'est sûr que les juges aiment mieux avoir les avocats devant eux, avec des témoins qui témoignent de façon conventionnelle. Ils peuvent y voir la face un peu plus, ils peuvent voir sa mimique, ils peuvent voir comment il se déplace, comment il réagit. Oui, peut-être, mais est-ce que c'est nécessaire qu'autant de causes procèdent en présentiel? Certainement pas.
Parce qu'avec le retard qui s'accumule constamment, à un moment donné, on va être obligé de passer à une autre technique. Celle-ci semblait bien fonctionner. Je vais vous poser une question, Maître Bellemare. Quand vous êtes sur l'autoroute, parce que là, vous me dites que si je fais affaire avec vous, là, vous êtes sur l'autoroute, moi, il faut que je vous paye là, pour être sur l'autoroute. Est-ce que vous roulez à 90 ou 119 km/h? Parce que là, à un moment donné, ça fait une différence dans le temps, Maître Bellemare, là.
Ben, je dirais 119
Ouais.
plus.
Bon,
Oui,
OK. Bon, ça.
119 plus. Et en fin de semaine, je me promenais sur le chemin, puis je regardais les gens circuler, puis je me disais, il n'y a pas grand monde, dans le fond, qui respecte les limites de vitesse, toute la circulation. Puis quand tu suis quelqu'un, je ne sais
Oui.
pas si tu es comme moi, mais quand tu suis quelqu'un sur la route, là, bon, à Montréal ou à Québec ou en région, et que la personne respecte scrupuleusement les règles,
Oui.
OK? La personne s'immobilise à l'arrêt stop complètement avant de repartir. Respecte la limite de vitesse à 30 km/h. Tu fatigues quand tu suis quelqu'un qui respecte les limites de vitesse?
On fatigue, effectivement. Mais ce qui me tanne, moi, c'est pas ça, Maître Bellemare. Je fais beaucoup de routes, là, surtout la fin de semaine, pour ce qui est des tournois de hockey de mes gars. Puis vous avez vécu ça pendant des années, vous aussi. Là, maintenant, c'est les petits-enfants qui s'en viennent puis qui jouent au hockey. Mais ce qui me tanne, moi, c'est les gens qui sont sur l'autoroute et qui voyagent sur la voie de gauche. La voie de gauche est une voie pour dépasser. La voie du centre, c'est la voie pour voyager. Et la fin de semaine, spécifiquement, on dirait qu'il y a une catégorie de personnes qui arrivent sur les autoroutes, qui, eux, ont l'impression que c'est la voie de gauche qu'on se sert pour voyager, puis la voie de droite qu'on se sert pour dépasser. C'est un asile, des fois, sur l'autoroute, Maître Bellemare. J'ai plein
Ça ne
d'autres questions.
s'améliore pas, hein?
Non, ça ne
Ouais.
s'améliore pas. Mais j'ai plein d'autres questions à vous poser. D'ailleurs, ce serait. Je vais vous parler de la SAC tout de suite après la pause. Je vous rappelle que ce soir, comme à chaque lundi, sur les ondes, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare de chez Bellemare Avocats. Des dossiers de SAC, des vagues de CNESST, vous avez des questions. Vous voulez Maître Bellemare comme avocat? Ben c'est bellemareavocat.ca. Courte pause et on revient.
Marceau, le soir. Rage against le matin.
L'ex-enquêteur du SPVQ, Roger Ferlin. Roger, qu'on revienne sur ce meurtre qu'il y a eu en fin de semaine dans le secteur de Beauport. Comment ça se peut, dans ce genre de situation-là, qu'on finit par tuer la mauvaise personne?
En fait, triste conséquence de toutes les tensions qu'il y a en ce moment entre les gangs. En fait, ça montre le peu de respect et le peu de rigueur.
Alors, c'est des novices.
C'est des novices. C'est en plein ça. Là, c'est une race à personne, mais au moins, on vient d'arrêter trois tueurs. Ils vont en avoir combien d'autres comme ouais. ça? Là? Regardez, là, une couple de semaines à Sainte-Marie-de-Beauce, la mitraillette en plein jour. Là, c'est encore en plein jour. Fait que c'est des gens qui n'ont même pas la structure de penser « On va travailler de soir et de nuit, on va se cacher. »
Rage Against le matin. Tous les jours en semaine, 6 heures. Sinon, vous retrouvez tous nos coups de circuit sur le blvd.fm.
C'est ça.
Un an auparavant, au centre de glace Intact Assurance.
Hey, les gars, come on, je peux pas croire.
C'est jamais qu'on allait apprendre, celle-là!
Hey, vous auriez pu donner plus, les gars, là.
Hey, ta gueule, la rousse!
Ouais, mais en même temps, c'est normal qu'on ait perdu contre cette équipe-là. Il s'appelle le bout en feu. Le bout en feu, man!
Hey, nous t'assurons les boys. L'année prochaine, ça va être notre année.
Ça dépend de vos adversaires, ça, les gars.
Vous voulez vous mesurer à la gang de Boulevard 101 le 20 mars prochain? C'est le temps de nous montrer ce que vous avez dans le ventre. Inscrivez votre équipe d'hockey dès maintenant au blvd.fm.
Soyez prêts pour l'événement de l'année. Plus excitant qu'un show de Kendrick Lamar. La classique annuelle Boulevard. Le 20 mars, au centre de glace Saint-Acte Assurance.
Lévis Subaru vous offre le VUS électrique parfait pour l'hiver, la Subaru Solterra. Obtenez jusqu'à 16 000 $ de rabais en location 48 mois à partir de seulement 120 $ plus taxes par semaine. Faites vite, les quantités sont limitées.
Visitez lévisubaru.com.
Avec sa formule sur mesure en ligne avec horaires allégés dans 10 différents domaines, la formation continue du Cégep Garneau répondra aux besoins de perfectionnement de votre entreprise. Visitez progresseravecunz.ca pour plus d'informations.
Renault Assistance accompagne...
Carole, désolée pour le bruit, hein? Je rénove ma cuisine.
Toi, ça?
Ben, pas moi, là. C'est l'entrepreneur vérifié qui m'a été recommandé par Renault Assistance. On réglait justement des petits détails, là. Ben, c'est plus Mathieu, mon conseiller Renault Assistance.
Donc, c'est pas vraiment toi qui gères ça?
Ben non. Moi, je relaxe.
Renault Assistance. Rénover, bien accompagné.
RenaultAssistance.ca.
Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
Propulse ta carrière au Centre de formation professionnelle Samuel de Champlain. Nos programmes innovants en administration, construction, maintenance et bâtiments, mécanique conseil et vente te prépareront aux défis de demain. Inscris-toi au cfpsc.qc.ca.
Qu'on vous reconnaisse au quotidien par votre regard captivant, votre sourire éclatant ou votre style extravagant, votre identité est unique. Et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale. C'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant au québec.ca/authentification gouvernementale. Un message du gouvernement du Québec.
On dit que donner aux autres, ça nous procure quelque chose. C'est vrai plus que jamais grâce à la loterie Heureux Gagnant de la Fondation du CHU de Québec. Procurez-vous votre billet jusqu'au 23 mars et vous pourriez gagner jusqu'à 30 000 $ en argent et plusieurs prix jusqu'à 15 000 $. Les profits seront consacrés au financement de projets innovants des 5 hôpitaux du CHU de Québec Université Laval et de son centre de recherche. Achetez votre billet dès maintenant au fondationduchudequebec.org.
Podcast. Boulevard 102 est de retour avec sa 6e saison de podcast.
Salut, c'est Reg. Dès le 3 mars, on part une nouvelle saison du podcast Reg La Planche Backstage. Ça part fort, fort, fort avec mon chum Jérôme 50. Puis en passant, Jérôme 50, habituellement, il n'en fait pas de podcast. Soyez à l'écoute.
Reg La Planche Backstage, présenté par Abba Extermination. Souvent imité, jamais égalé. Ils ont la solution pour éviter que les rongeurs et les insectes cohabitent avec vous. Demandez votre soumission gratuite au abbaextermination.ca.
C'est le moment de vous démarquer. Louez le Volkswagen Taos 2025 à partir de seulement 3,49% sur 48 mois. Profitez d'un VUS compact qui allie style, confort et technologie avancée, parfait pour toutes vos aventures. Laval Volkswagen, sans fla-fla depuis 1968.
Le Diamant vous invite à vivre des moments uniques en famille. À la relâche, du 6 au 8 mars, découvrez Kintsugi, le nouveau spectacle aux acrobaties vertigineuses de machines de cirque présenté pour la première fois à Québec. Puis, du 13 au 15 mars, place à une expérience théâtrale immersive avec le plus merveilleux ours polaire sur scène dans le spectacle Dimanche de Focus et Chaliwaté, à partir de 32 $, 20 $ pour les 20 ans et moins, au lediamant.ca.
102.1, la radio rock de la vieille capitale. Ça, c'est ça. C'est
BLVD.
Boulevard. 102.1. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Maître Bellemare est avec nous ce soir. Maître Bellemare de bellemareavocat.ca. On parlait tout à l'heure de la Société de l'assurance automobile du Québec, des gens qui étaient sur la route. Maître Bellemare, à un moment donné, va falloir revoir un peu notre façon de faire pour ce qui est de l'entente qu'on a avec des pays concernant les permis de conduire versus les pays où on n'a pas d'entente avec eux. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point il y a des gens qui semblent avoir énormément de difficultés à se mouvoir dans nos villes et à se mouvoir sur nos autoroutes parce qu'ils ne comprennent pas trop comment ça fonctionne. Et ce qu'on a appris dans les derniers mois, Maître Bellemare, c'est que si vous êtes un nouvel arrivant, puis vous venez, bon, prenons le continent africain, vous venez du continent africain, bien la SAAC n'a pas d'entente avec le continent africain pour ce qui est des permis de conduire. Donc, on ne sait pas si la personne qui se présente devant nous avait bel et bien un permis, puis on n'est pas en mesure de le confirmer, et ou quand elle nous présente un permis qu'elle aurait pu acheter sur Internet, on n'est pas en mesure de confirmer si c'est un vrai permis ou non. Donc, on leur donne à 6 mois. On leur donne 6 mois à ces gens-là pour se conformer. Donc, ils ont le droit de façon temporaire de conduire sur nos routes sans jamais avoir rencontré aucun inspecteur de la SAAQ à savoir si cette personne-là est apte à se promener sur nos routes. Et ça donne lieu des fois à des catastrophes sur la route, Maître Bellemare. Des gens qui prennent l'autoroute sens contraire, des gens qui ne comprennent pas c'est quoi un sens unique. Je me dis, à un moment donné, il va y avoir une grosse tragédie. Puis il y a eu des statistiques qui ont été annoncées dans les derniers mois. Et effectivement, chez ces gens-là qui viennent d'ailleurs, ces gens-là avec qui on n'a pas d'entente avec les pays tiers, ben il y a une augmentation au niveau des incidents, au niveau des accidents, une augmentation des blessés aussi en raison du fait que ces gens-là, ben ils savent pas comment conduire. Imaginez-vous en période hivernale, ça doit être une catastrophe pour eux. C'est la première fois qu'ils découvrent ça de leur vie. Il va falloir que la SAAQ revienne un peu sur ces façons de procéder-là.
C'est nous les sans-dessins, là. Parce que, tu sais, nous, quelque part, là, on est une société d'accueil.
Oui.
On rentre des immigrants à pleine porte, oui. Surtout 2024, 2023, 2025 aussi. Même Trudeau l'a reconnu, qu'il y avait trop de monde, que les procédures d'immigration étaient trop faciles. Les gens arrivent ici puis conduisent des véhicules automobiles, comme tu le dis, été comme hiver. Dans une circulation complexe, souvent, avec des fois, ils ne parlent pas français du tout. Alors, la signalisation est en français, le nom des villes, les règles de sécurité. C'est nous, les sans-dessins. Comment ça se fait qu'au Québec, on n'est pas capable de dire, écoute, tu viens d'ailleurs, même d'un pays d'Europe occidentale, même si tu es italien, même si tu es espagnol, même si tu es portugais, tu es hollandais, tu vas venir au Québec et tu vas avoir besoin de passer un cours de conduite pour pouvoir te qualifier. On a été une certaine période de temps au Québec où on a laissé tomber les cours de conduite parce que selon la SAAQ de l'époque, ils disaient que ça n'ajoutait pas une plus-value dans la compétence du conducteur. Ils se sont ravisés. Ils ont finalement dit, on va avoir des cours de conduite obligatoires pour les jeunes. Je trouve ça normal. Alors pourquoi on va exiger d'un jeune de 16 ans au Québec, un Québécois de souche, il passe des cours de conduite pour la question sécuritaire, parce que moi, je n'ai pas le goût de me faire frapper par un gars qui ne sait pas où il va puis qui est distrait ou qui roule trop à gauche ou trop à droite, etc. Mais comment ça se fait qu'on va accepter un Rwandais ou un Sénégalais ou un Sri Lankais au Québec qui n'a jamais conduit au Québec, qui est un nouvel arrivant, bienvenue chez nous, qu'on va lui permettre d'utiliser un véhicule moteur de 2 tonnes ou même d'un véhicule commercial et de risquer d'avoir des accidents.
Pendant six mois, il va pouvoir se pratiquer et faire ses erreurs sur la route. Et par la suite, au bout de ce 6 mois-là, il va devoir rencontrer un coach à la SAAQ qui, lui, va lui faire le circuit là, qu'il doit faire. Puis après ça, on va lui octroyer son vrai permis. Et avant que les médias parlent de cette histoire-là, ben, à à toutes les fois où la personne se présentait puis réussissait pas à passer son examen technique, là, donc sur la route, ben on lui laissait la permission quand même de continuer de conduire sur nos routes.
Il échouait son test, mais on lui disait « tu continues pareil ».
Puis on s'en revoit dans un mois. On s'en revoit dans un mois ou on s'en revoit dans 6 mois.
Complètement ridicule. Non, mais complètement ridicule. Non, on est vraiment, comme société d'accueil, on fait dur. L'aide juridique, les soins de santé, les permis de conduire, il y a tout un ménage à faire de ce côté-là. On a peur de se faire traiter de raciste, on a peur de se faire traiter d'intolérant, et on est naïf dans nos conditions. Les permis de conduire, je regrette, mais ça demeure un privilège. Et à moins que tu fasses la preuve par 2 plus 2 égale 4, que tu es compétent sur la route, de la même manière qu'on va l'exiger d'un grand-père de 82 ans qui commence à avoir des problèmes d'Alzheimer ou des problèmes de réflexe ou des problèmes de cognitifs, on va l'exiger de la part d'un immigrant, même s'il a 35 ans. Tu as raison, les conditions routières changent partout, même en Amérique du Sud. Moi, j'ai voyagé beaucoup en Amérique du Sud, j'ai voyagé en Europe de l'Est. Et même en Europe de l'Ouest, les conditions varient beaucoup. Et ici, il y a un hiver. Alors, si tu viens de Naples, en Italie, puis tu te retrouves ici dans des tempêtes de neige comme ce qu'on a vécu la semaine dernière au Québec, particulièrement à Montréal, bien là, ça ne veut pas dire que tu es capable de le faire et de te comporter correctement dans des conditions climatiques difficiles. Et le français, l'utilisation du français... Le code de la sécurité routière, il est particulier ici. Alors, on devrait être beaucoup plus exigeant que ça. Puis la SAC, dont la mission consiste à assurer la sécurité sur nos routes, ne fait pas sa job de ce côté-là. Et le ministère des Transports non plus. Et c'est eux sur qui on compte pour assurer notre sécurité. Alors, de trouver un accident quelque part qui aurait été causé par une personne, un nouvel arrivant qui n'aurait pas eu les bons réflexes ou la bonne attitude au moment de l'accident... On n'a pas ça nécessairement à recenser tous les jours dans les médias, mais on n'est pas fou puis on sait que ça se produit au Québec, comme dans n'importe quel pays du monde où on fait preuve d'autant de laxisme.
Maître Bellemare, je ne sais pas si c'est la question qui tue, mais avec les grosses bordées de neige qu'on a reçues à la grandeur du Québec, on se pose la question ce soir, qui doit déneiger les escaliers de notre immeuble à logement? Est-ce que c'est le propriétaire qui doit payer ce service-là ou encore c'est le locataire qui doit lui-même déneiger ses escaliers? Puis en cas de non-déneigement de ces escaliers-là, s'il y a un incident, qui doit payer? C'est la faute à qui? On s'organise comment? Bellemareavocat.ca.
En principe, c'est le propriétaire qui doit déneiger l'immeuble. Mais c'est sûr que c'est une entrée privée. Tu sais, si c'est une maison en rangée, par exemple, puis tu loues, que tu as une entrée privée, puis que ce n'est pas prévu spécifiquement que c'est le propriétaire qui doit l'entretenir, mais c'est toi qui dois le faire. Si c'est ton entrée à toi et que tu es le seul à avoir accès. Mais si c'est une entrée collective, je ne sais pas, moi, un 12 logements, puis tu as une seule entrée principale, bien, à moins que le bail prévoit que c'est le locataire, normalement, c'est le propriétaire qui doit...
Mais dans le cas où on a des escaliers en colimaçon, quand j'étais au collège, là, j'avais des escaliers dans mon appartement, j'avais des escaliers en colimaçon, puis c'était les locataires qui s'occupaient de déneiger ces escaliers-là. Il y en a qui avaient la chance d'avoir des escaliers bien droits, puis parfois, ça donnait sur deux appartements, l'appartement à gauche, l'appartement à droite, puis on avait le locataire de droite qui, lui, déneigeait ses marches juste de son bord, puis t'avais l'autre qui préférait faire sa trail sur ses marches. Ça fait un peu pic-pic, mais n'en demeure pas moins que je trouve ça intéressant, à savoir à qui revient la faute si jamais il y a un incident. Si le locataire glisse, il charge à qui sa facture, le fait qu'il doit se présenter à l'hôpital, qu'il n'y a pas d'emploi, il va où cet individu-là?
Propriétaire. Le propriétaire. En principe, c'est le propriétaire qui est responsable de l'entretien, parce que c'est lui qui est propriétaire des lieux. C'est lui qui est propriétaire de l'immeuble. C'est à lui qu'on doit s'adresser s'il y a un événement traumatique ou un accident. Maintenant, il peut arriver que c'est le locataire par bail, parce qu'on parle toujours d'un bail locatif, donc d'un logement qui est loué avec un accès par le biais des marches. Si c'est prévu dans le bail que c'est le locataire qui doit entretenir, bien à ce moment-là, c'est lui qui doit le faire. Puis si le propriétaire doit entretenir les marches et qu'il ne le fait pas, le locataire peut demander au tribunal administratif du logement une réduction de son loyer mensuel si c'est lui qui entretient alors que c'est le propriétaire qui doit le faire. Mais moi, je dois te dire sans aucune hésitation, si j'ai un client qui glisse ou qui se fait mal dans un escalier en colimaçon à Montréal, parce que les escaliers dont tu parles sont surtout présents à Montréal. Ouais. Il y en a ici à Québec un petit peu au niveau de
Limoilou.
Mais normalement, à Québec, il y a beaucoup, beaucoup de locataires qui demeurent dans un étage au premier ou au deuxième étage avec un escalier qui est toujours problématique et il n'y a pas de place pour mettre la neige. Alors, si tu te blesses dans un escalier à Montréal, c'est normalement le propriétaire à qui tu dois penser au niveau de la poursuite civile. Puis lui va pouvoir appeler en garantie le locataire si jamais le bail prévoit que c'est lui qui doit entretenir les lieux.
Okay. Si c'est le facteur, si c'est le facteur ou le livreur d'Amazon qui se, pardonnez-moi l'expression très française, là, se bêche, il prend une méchante débarque dans les escaliers, c'est le propriétaire, sauf si on avait prévu au départ que c'était le locataire qui devait déneiger.
Oui, mais okay. le gars, le livreur, lui qui s'est fait mal parce que les marches sont mal déneigées, d'abord, il faut qu'il prouve au juge qu'il a commis une négligence, que la personne responsable de l'immeuble a commis une négligence. C'est pas parce que tu tombes que nécessairement le propriétaire est responsable. Il faut que tu fasses la preuve que le propriétaire, que la personne qui devait entretenir a mal fait sa job, qu'elle était insouciante, qu'elle a commis une faute. C'est pas parce que tu tombes en quelque part que la personne est nécessairement responsable. Tu dois toi-même prouver que tu as pris toutes les mesures pour éviter une chute. Mais spontanément, ce serait le propriétaire de l'immeuble qui serait responsable. Et lui, le propriétaire, s'il a donné mandat à quelqu'un d'autre d'entretenir, que ce soit le locataire ou un concierge ou une compagnie de déneigement, lui, le propriétaire qui est poursuivi, peut faire ce qu'on appelle un appel en garantie, c'est-à-dire poursuivre à son tour dans le cadre du même procès la personne qui avait la responsabilité d'entretenir les lieux. Et le juge peut passer à travers le propriétaire pour aller rejoindre la personne négligente qui serait éventuellement le locataire responsable ou une compagnie de déneigement.
Puis encore là, vous nous l'avez souvent rappelé, quand il nous arrive une tragédie comme ça, on va sur des escaliers qui ne nous appartiennent pas, on prend une débarque, on est cassé d'un peu partout. Toujours prendre des photos, toujours documenter le plus possible comment c'est arrivé, à quelle heure que c'est arrivé, les témoins qui vous ont vu prendre une débarque, est-ce possible prendre leur nom, leur numéro de téléphone pour être capable de les rejoindre? Est-ce qu'en cours, ces gens-là sont toujours dégommés, ceux qui n'ont pas de dossier de préparer, puis tout ce qu'ils disent, c'est « j'ai tombé, puis ça m'a
non,
fait
ils
mal ».
Non, ils peuvent être crus à leur serment, mais c'est un procès au mois de mai. Puis tu dois prouver qu'il y a un an et demi, en février, tu as tombé dans un escalier parce qu'il y avait de la glace. Il n'y avait pas de sel. Il y avait si bien là, tu dis, il n'y avait pas de sel, il n'y avait pas de sable. Mais là, le gars que tu poursuis, lui, il dit, oui, oui, j'ai mis du sel une demi-heure avant, puis j'ai mis du sable. Puis il n'y a jamais personne qui est tombé là, alors qu'il y a des dizaines de personnes qui passent dans cet escalier-là. Qu'est-ce que tu penses que le juge va dire? Tu as le fardeau de la preuve quand tu poursuis. C'est toi qui dois prouver que tu as raison. Et dans un cas de chute comme ça, tu dois prouver trois choses. D'abord, qu'il y a une faute qui a été commise par la personne qui a mal entretenu les lieux, un piège, une chose que tu ne pouvais pas prévoir. Tu dois prouver aussi qu'il y a un dommage qui a été causé. Donc, j'ai mal. Oui, oui, je comprends, mais ça prend une preuve médicale comme quoi il y a de quoi te briser, il y a une blessure. Et tu dois prouver qu'il y a un lien entre la blessure et la chute. Mais souvent, la blessure est assez facile à prouver. Tu as un médecin, une radiographie, fracture lombaire, exemple. La relation est en lien avec la chute, mais souvent, ce qui achoppe dans ces causes-là, c'est il faut prouver qu'il y a eu un piège. Il faut prouver que c'est de la faute du propriétaire des lieux qui a mal entretenu l'escalier en question. Ce n'est pas parce que tu tombes qu'il est nécessairement responsable. Peut-être que tu n'as pas regardé où tu marchais. Peut-être que tu étais trop pressé, peut-être que tu étais mal chaussé aussi, peut-être que tu avais des bottes assez usées, merci. Peut-être que les marches, il y avait une déficience au niveau des marches, peut-être que tu n'as pas mis le pied à bonne place, peut-être que tu étais trop pressé. Et c'est ça qui est le problème souvent, c'est qu'il faut que tu prouves que malgré toute la prudence dont tu as fait preuve, tu es tombé parce qu'il y avait une petite neige avec une glace en dessous qui avait été mal nettoyée et il a pas eu, le propriétaire n'a pas mis les abrasifs qu'il devait mettre dans les circonstances.
Maître Bellemare, dernier sujet, il nous reste encore quelques minutes ce soir. Je vais vous parler du TGV qui a été annoncé par Justin Trudeau la semaine dernière. Moi, depuis des années que j'entends parler de ce dossier-là, je rêve d'un projet de ce genre-là. C'est un projet qui pourrait être pan-canadien, d'un océan à l'autre. Là, ce qu'on nous a annoncé avec Justin Trudeau, c'est que ce serait un TGV dans le corridor de Toronto, Montréal, Québec. Il y a peut-être d'autres villes qui seraient rajoutées, là, bien entendu. On parle d'un projet qui durerait des années et des années. Je trouve ça particulier que Justin Trudeau fasse ça juste quelques jours avant son départ, mais je trouve ça franchement intéressant comme projet. Moi, ce serait